Donc, l'idée de discrétion, c'est-à-dire de ne pas faire les choses, d'avoir, voilà, la vieille idée que la vertu, c'est un sommet entre deux extrêmes. Et ça, c'est une idée que reprendra saint Benoît, qui va être justement ensuite canonisé, si j'ose dire, au sens étymologique du terme, ça va devenir vraiment une règle, au début du deuxième millénaire, enfin à la fin du premier.
À cette époque-là, dans les monastères, il y avait un nombre minimal et maximal de moines.
Non, en fait, non, il y avait des communautés gigantesques hein, qui pouvaient compter plusieurs centaines de moines. Mais il faut dire aussi que tous ces moines travaillaient les champs. Hein, donc, il fallait, pour que quelques-uns puissent vaquer aux questions intellectuelles, eh ben, il fallait qu'il y en ait d'autres qui fabriquent, eh ben, ne serait-ce que les parchemins, ou qu'on ait suffisamment de blé à vendre pour acheter du parchemin, de l'encre, des trucs comme ça. Donc, en fait, ça. Il y avait des communautés qui étaient très très grandes hein, et des toutes petites communautés de rien aussi, notamment des groupes, des gens qui se groupaient autour d'une sorte de starets, hein, en gros, voilà, qui étaient des communautés sans. On voit ça d'ailleurs au début au Moyen-Âge, par exemple, les premiers carmes, c'était une douzaine d'ermites qui se sont mis ensemble. Et voilà, c'est le point de départ de l'ordre. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de fondateur connu. Les Servites de Marie, c'est né comme ça aussi. Ont parfois des petits groupes comme ça qui se groupent. Enfin, quasiment tous les ordres sont nés comme ça, hein, par l'agrégation de quelques personnalités autour d'une personnalité plus charismatique.
Il me semble qu'au Pays de Galles, à Bangor, ils étaient un tout petit peu moins de 2000.
Ah oui, bah vous vous rendez compte?
5e siècle.
Donc, des communautés gigantesques. Hein. En Égypte, ils pouvaient se compter par plusieurs centaines hein, de chaque. Actuellement, en Russie, on revient à des monastères de plusieurs centaines de moines. Hein. Ouais. Alors, il y a aussi dans la spiritualité chrétienne des communautés qui ont voulu avoir des chiffres un peu symboliques. Notamment dans la règle de saint Benoît,
70.
oui, voilà, on parle du nombre de disciples, comment ils sont organisés par groupe de 12 aussi. On voit par exemple que chez Thérèse d'Avila, ça va de 12 à 24, ou 12 à 21, je sais plus. Comment? Oui, voilà, donc il y a des. Voilà, exactement, saint François voulait des petites communautés. Pour que la charité fraternelle soit plus sensible. Thérèse d'Avila voulait des petites communautés aussi, hein, certaines d'un monastère où elles étaient 150 à peu près. Donc voilà, la spiritualité chrétienne a eu plusieurs. Alors revenons à notre évagre. Alors lui, donc. Vraiment, il n'est pas antiochien, il est typiquement alexandrin. Il va utiliser donc la méthode allégorique pour faire des commentaires un peu à la manière d'Origène, donc des commentaires bibliques, où on joue beaucoup sur les mots, vous voyez, sur les transpositions de l'Ancien au Nouveau Testament. Alors, il y a aussi des écrits ascétiques, avec le présupposé d'Origène. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? C'est un ange qui est tombé dans la matière.
C'est pas un peu platonicien?
Ah si. Donc c'est très. Voilà, c'est ce qui finira par être condamné. Donc les âmes sont tombées dans des corps. Elles ne sont plus capables d'une vraie gnosis, d'une vraie connaissance de Dieu, mais simplement d'une théoria, c'est-à-dire d'une contemplation lointaine qui a besoin d'être. Comment dire, aiguisé par l'ascèse et donc par le renoncement à tout ce qui est corporel, matériel. Alors quand je vous dis que le monachisme égyptien est plus doux, vous voyez quand même que c'est assez platonicien. Hein. Alors, du coup, la rédemption consiste, sous l'influence du Christ, seule âme à ne pas être déchue, à revenir à la gnosis qu'il possède. Que le Christ possède. Alors vous voyez, quand je vous dis que en fait, il y a un lien un peu entre l'origénisme avec ce qui sera le comment on appelle ça déjà, au contraire de l'unestorianisme, le monophysisme des Égyptiens, des Alexandrins en particulier, c'est que globalement, tout ce qui est de l'ordre du corps, c'est quand même le signe de la chute. Hein. On est essentiellement des âmes tombées dans des corps. Donc, il faut faire le chemin inverse, débarrasser des choses corporelles pour retrouver la pure spiritualité. Le Christ étant le modèle, hein, la seule âme qui n'est pas tombée. Du coup, son humanité. Hein, et ben, du coup, les Nestoriens ou les gens d'Antioche diront ben, son humanité, pour vous, c'est jamais qu'une sorte d'apparence. C'est juste un déguisement qu'il a pris, en fait, pour se faire reconnaître, voir et agir. Mais le vrai but, c'est s'en débarrasser. Et ainsi, le monophysisme encore Saint-Cyril d'Alexandrie tient la ligne, mais après, on voit bien qu'on va tomber dans le monophysisme, c'est-à-dire une dépréciation de l'humanité du Christ. Où on dira, bah, finalement, en gros, l'humanité du Christ, c'est comme quand un ange apparaît. L'ange, il ne s'incarne pas, hein, mais c'est comme un hologramme. Ou quand les apparitions de la Sainte Vierge, elle, évidemment, elle a un corps, mais enfin, elle fait apparaître son corps, mais donc c'est pas l'incarnation du Christ qui a marché sur nos qui a laissé ses traces à Beaurain. La Sainte Vierge, elle est sur un petit buisson et y a pas de traces. Alors, vous voyez que la spiritualité de Evag, c'est une spiritualité extrêmement ascétique, hein, puisqu'il s'agit de revenir à ce que nous sommes profondément, c'est-à-dire des purs esprits. Alors, ce mouvement suppose l'apathéia, donc le fait de ne pas souffrir, de ne pas pâtir, autrement dit, la liberté par rapport. Alors, qu'est-ce qui nous fait souffrir ? Eh bien, ce sont nos désirs, nos passions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Supprimer le désir en matant nos passions. Et à ce moment-là, on ne sera pas frustré de ne pas obtenir quelque chose puisqu'on ne l'aura pas désiré. Donc, vous voyez, c'est aussi une spiritualité. Toutes ces spiritualités dualistes sont des spiritualités très proches du monde bouddhiste, etc. C'est pas très chrétien. Hein, c'est... Mais vous voyez, il y a une grande, comme disait Karl Jaspers, il y a une grande axiale entre le monde grec, à travers le Moyen-Orient jusqu'aux Indes, où tout le monde est dualiste à cette époque, tout le monde pense qu'on est un esprit et qu'il faut se débarrasser de son corps. Alors, selon les ambiances culturelles, ça change un peu de formulation. Mais là, vous voyez, avec Évagre, on reprend la vieille idée de la pathéia qu'on trouvait chez les stoïciens, les stoïciens, c'est le bouddhisme des occidentaux, hein, en gros c'est ça. Donc les passions viennent de la chair, donc elles sont mauvaises. Les désirs qui sont suggérés par nos passions, sont des choses qui sont sont des choses qui sont à combattre. Alors nous, on est avec justement le disciple infidèle de Platon sur ce point, c'est Aristote, parce que lui va développer le démonisme, c'est-à-dire le fait de rechercher le bonheur, sachant qu'on est à la fois spirituel et corporel, du coup c'est un bonheur qui est mixte en fait. Et du coup ça explique aussi que l'aristotélisme soit une des philosophies qui a le plus finalement collé avec le christianisme. Alors, donc, il y a l'apathéia. Je vais l'écrire en grec. Et puis, grande idée qu'il développe, c'est... vous allez reconnaître ensuite le terme que ça va engendrer.
Lesukhya.
Lesukhya, ça signifie le repos. Repos alors qui est à la fois intérieur et extérieur. Alors évidemment, si vous n'avez pas de passion, vous n'êtes pas très animé de mouvement intérieur ni même extérieur. Donc, vous êtes dans une sorte de repos. Hein, c'est un peu comme les bouddhistes. Et alors, ça donnera le mot hésychasme. Voilà. Donc, il va être celui qui va lancer la grande idée de l'hésychasme. Voilà, avec le pèlerin russe. Ou alors il faut se vider de tout ce qui est encore attachement à des choses d'ici-bas pour ne s'attacher plus. Alors c'est là où l'hésychasme devient chrétien, ne s'attacher plus qu'au Christ qui vient habiter en nous, mais d'une manière pas simplement mystique par la grâce, mais qui au point qu'il vient saturer même toute notre affectivité, notre intelligence, etc. Et pour y parvenir, donc, vous savez, on va répéter la prière de Jésus là, des milliers de fois dans la journée, etc. On finit par être vraiment plus habité que... Certains ont peut-être lu les récits du pèlerin russe. C'est assez impressionnant.
C'est quoi la phrase? Je suis déjà oublié.
Alors, c'est
Jésus, fils de Dieu, fils de moi, pécheur.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Mm-hmm. Et c'est. Alors, ça suppose le combat contre. Il s'est quand même rendu compte que c'est comme les passions, c'est un peu comme les mauvaises herbes. Ça repousse quand même. Donc, la cesse n'est jamais terminée. Alors, pour parvenir à ce repos intérieur, eh bien, il faut lutter contre cette espèce d'ennui qu'on a à tendre vers Dieu. Vous vous souvenez, la grande idée d'Origène, qu'est-ce qui a fait tomber les âmes dans la chair? En fait, c'est la satiété. C'est parce qu'elles en avaient... Elles étaient repues de la gnosis. Alors, pouf, elles tombent. Et on fait un peu cette expérience, à force de chercher Dieu en écartant tout le reste, à un moment, on finit par avoir un vertige, en se demandant, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le rien qu'on a en face de soi, hein? Parce que Dieu est tellement raffiné dans sa spiritualité qu'entre Dieu et rien, on ne voit plus trop bien la différence. Et ça, c'est le risque de tomber dans l'acédie.
Ah, c'est ça.
Oui, l'acédie, c'est l'acédia, c'est l'anus.
Donc vous croyez que vous êtes en Dieu, mais finalement vous êtes nulle part. Vous êtes juste en vous, quoi.
Et alors, l'acédie, c'est cette espèce de dégoût qu'on a de tout, et en général, qui est le signe qu'on n'a pas trouvé. Alors c'est très 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 étonnant, parce que si Dieu plus Dieu veut se donner tel qu'il est, plus il est obligé de se donner dans sa pure spiritualité, donc dans ce qu'il y a de moins saisissable à nos sens. Donc on a du coup l'impression de l'avoir perdu. Et c'est parfois quand on l'a de la manière la plus spirituelle qu'on a l'impression de ne plus l'avoir du tout. D'où les immenses problèmes des mystiques qui se demandent s'ils n'ont pas pris la mauvaise voie, s'ils ne sont pas perdus, s'ils aboutissent pas finalement au rien plutôt qu'au tout. Et c'est là que vous avez toutes ces règles pour le discernement, notamment qui vont être développées par Saint Jean de la Croix, parce que Thérèse, faisant travailler mystiquement ses petites carmélites, et bien en fait, il y en a pas mal qui, du coup, arrivent à cette situation où elles ne savent plus si elles aboutissent à rien, ou alors si elles aboutissent à Dieu tel qu'il est, au-delà de toute prise des sens et de l'intelligence. Et du coup, il faut un directeur particulièrement expérimenté qui est déjà passé par ces voies-là pour pouvoir les guider en leur disant « Ben là, voilà, il faut vous convertir. » Ou alors là, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et évidemment, Saint Jean de la Croix, étant passé par justement toutes ces nuits, il va pouvoir permettre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la pensée, par exemple, d'un Jean de la Croix, qui avait fait des bonnes études à Salamanque. Hein. Et Salamanque, c'est une université qui enseignait dans les trois langues. Enfin, donc, on y enseignait en hébreu, en grec, en latin. Le cardinal de Cisneros avait fait rassembler une bibliothèque extrêmement riche. Je ne sais pas si Saint-Jean de la Croix, quand il était étudiant là-bas, a pu connaître Évagre le Pontique, je ne sais pas. Mais peut-être des commentaires, des choses de ce genre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, comme on dirait au mois de mai, 50 ans avant, il y a une convergence des luttes. Et vous vous retrouvez avec aussi bien des Pères du Désert qu'un Saint-Ignace qui redécouvre tout ça dans son taudis parisien et puis dans sa Catalogne. Et puis Évagre et d'autres, en fait, finalement, ils aboutissent au même résultat. C'est quand même le signe qu'il y a des règles ou des lois générales dans la vie spirituelle, dans la vie mystique, et que les uns ou les autres retrouvent à travers leur expérience propre. Alors du coup, voilà, que faire pour lutter contre l'ennui, contre la sédie? Eh bien, travailler manuellement. Donc, faire des paniers. on en revient finalement. Donc, les origénistes, finalement, ils réutilisent le corps pour pouvoir libérer l'esprit.
Et qu'est-ce que c'est par rapport à tout ça, la sainte indifférence de Saint Ignace?
Ça se rapproche totalement de ça, oui. Oui, l'indifférence, c'est pas vouloir plus des choses. Enfin, c'est pas que notre volonté veuille des choses propres, vous voyez, mais c'est plutôt qu'on veuille ce que Dieu veut pour nous. Et donc, c'est adhérer à la volonté de Dieu. Et souvent, qu'est-ce qui fait de la friture en ligne, hein? c'est les interférences de notre propre volonté, de nos propres désirs, etc. Donc là aussi, Ignace a retrouvé par son expérience propre ce qui est finalement le fond de la spiritualité des Pères du Désert ou tout ça. Oui.
Il s'est dit, n'est-ce pas, finalement, un dégoût de soi?
Ah bah oui.
Donc dans des impasses.
Ça aboutit à ça.
Dans des impasses où on s'est mis, on a raté.
Tout à fait. Ça aboutit à ça parce que quand on a l'impression de n'aboutir à rien, on finit par se déprécier soi-même. Et donc la sédie, alors on l'appelle aussi le démon de midi.
Oui.
Ah bon?
Oui. Le démon de midi, parce que... Pensez à l'Égypte.
Thomas, on a fait un article dans Catholica du mois de...
Sur
la sédie.
L'abbé de Saint-Vendry a même fait sa thèse de doctorat sur la sédie. Sur la huitième des...
Ça a changé de sens, alors?
Oui, probablement, parce que ça signifiait... Le démon de midi, c'est... le matin, vous êtes reposé. Imaginez que vous êtes en Égypte. Hein. Donc, vous êtes... reposez, vous travaillez, vous faites vos trucs, puis au zénith, on est obligé de faire la sieste tellement la chaleur est accablante. Et donc, ça veut dire que c'est l'accablement de l'âme qui ne peut plus rien faire, qui est épuisée, qui s'effondre sur elle-même. Et après, il faudrait attendre la douceur du soir pour à nouveau faire des choses. Donc, le démon de midi, c'est quand on est paralysé par cette espèce de torpeur qui paralyse.
Mais ça a complètement changé de sens.
Oui, un peu, on dirait. Mais ça veut dire aussi.
Ça, le guignol de l'info.
Ça veut dire aussi que c'est le moment où la raison ne.
On parlait du démon de midi.
Mais c'est la même chose. C'est la même chose entre le dégoût de soi et la plongée dans.
Dans la sensualité, parce que c'est le moment, parce que ça veut dire cette torpeur de l'âme, ça veut dire que l'âme, du coup, ne maîtrise plus correctement le reste, et alors le reste, il en profite pour se réveiller, quoi.
C'est un sens qui est acceptable.
Oui, oui, c'est ça.
On n'a à garder qu'un aspect.
Et alors, voilà. Et alors, pour terminer, je dirais que il va formaliser la doctrine des huit vices capitaux. Donc les sept vices capitaux auxquels il ajoute la sédie, qui est justement celui qui est le lieu par lequel tous les vices peuvent se réveiller. Et alors, donc, il dira que quand on est parvenu à cette apatheia, cette espèce d'endormissement des passions, et donc de vigilance de l'esprit, eh bien, on arrive à la gnosis, autrement dit à la connaissance même de Dieu. Et en cela, il sera certainement un des auteurs les plus... il est le premier à formaliser l'itinéraire spirituel. Alors, vous avez vu un peu avec Grégoire de Nyssa, comment Grégoire de Nyssa, d'une manière encore très biblique, va prendre l'exemple de Moïse pour essayer de donner les jalons de la vie spirituelle. Mais quand même, c'est clair que Grégoire évagre en mettant par écrit les expériences des moines du désert, il va vraiment arriver à en faire une sorte de traité, hein, parce que il va y avoir les sept vertus, les sept vices, et puis la cédille qui est le vice capital. Et donc ça c'est intéressant. Et après ces écrits seront beaucoup commentés parce que comme la théologie orientale va cesser d'être très dogmatique, elle va devenir très vite spirituelle. Donc avec tous les grands monastères, etc. Donc tout ça sera continuellement commenté chez les orientaux. Et puis finalement, ça va être vécu chez les occidentaux à travers aussi la théologie monastique, puisque la grande théologie va disparaître avec les grandes écoles à la fin de l'Empire, et elle va subsister dans les cloîtres. Et dans les cloîtres, qu'est-ce qu'on fait ? On recherche Dieu. Hein. Donc finalement, on se retrouve avec la même problématique que les moines du désert. Et donc, on aura une théologie qui deviendra monastique. Comme ça. Bon, écoutez, voilà. Donc, à dans 15 jours.
Parce que le jeu, c'est plus.